les traverses du temps. Les traverses du temps en compagnie d'un compositeur d'aujourd'hui dont la musique, à la fois savante et qui sait aussi toucher tous les publics. Bonsoir Thierry Lancineau.
Bonsoir Marcel.
Quand j'ai connu votre musique, je ne connaissais pas votre nom. Je revenais en France après bien des années d'errance et la revue digitale, on dit, Forum Opéra, m'avait envoyé pour faire un papier sur un concert assez insolite, car c'est assez rare tout de même de voir une création dans une saison à la salle Pleyel de l'Orchestre Philharmonique où dans le concert, il n'y a que la création. Il s'agissait de votre Requiem. Et j'avais été frappé par tout de même le casting. L'Orchestre Philharmonique de Radio France, le chœur dans son entier, dirigé par Elia Winball, et des chanteurs alors absolument extraordinaires. Je pense à Stuart Skelton, à Eddie Grant Murphy, Nora Gubisch, Nicolas Courjal. Je me suis dit, là, il faut quand même y aller. Et à mon grand étonnement, la salle était mais pratiquement pleine, si je me souviens. Disons qu'elle était bondée.
Non, j'étais très gâté. J'étais très gâté par le casting et par le public.
Mais c'est assez étonnant. Et il s'est passé cette chose qui se passe quelquefois au théâtre, quand tout d'un coup, les gens sont pris. J'appelle ça la suspension. On a l'impression, ouf, et que ça dure jusqu'au bout. C'est ce qu'on avait ressenti dans ce Requiem jusqu'à ce triomphe final du public. Franchement, c'est assez rare dans les concerts de musique contemporaine.
Il semblerait, oui. Mais oui, j'ai senti de la part du public cette émotion. Et c'est, tout le long de l'œuvre, il n'y a pas eu de détente. Et l'attention a été continuelle.
Puis je pense, je sais qu'il ne faut pas s'auto-congratuler, mais tout de même, un coup de chapeau aussi à ces musiciens du Philharmonique, au cœur de Radio France, car on sentait un tel enthousiasme chez tous ces artistes que le public se sentait touché aussi.
L'orchestre a été spectaculaire, et le chœur aussi.
J'avais remarqué d'ailleurs à ce retour en France que les concerts au Philhar, par exemple, étaient... Moi, j'étais tout en haut, à Pleyel, tout en haut, et c'était un public que de jeunes, et assez bouleversé. J'ai vu des gens pleurer, je me souviens même de ça. Enfin, je suis sorti de là tout estomaqué, parce que d'où je venais, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de genre de concerts de musique contemporaine de ce genre.
Et vous arriviez d'Amérique du Sud, c'est ça?
Non, oui, j'étais... Non, en Amérique du Sud, il y avait... Non, je pense à Genève.
Ah, Genève. Ouais.
Et là, tout d'un coup, ça m'a donné un goût de Paris que je n'ai jamais perdu depuis.
Ça, je dois dire que c'est effectivement rare. Tout ça est très rare. Mais l'opportunité et la possibilité d'avoir une œuvre de cette ampleur, je pense que ça arrive très rarement.
Ça
ne peut arriver en France. Mais il y a beaucoup de pays, effectivement, où ça ne peut pas arriver. Donc, il faut tirer un chapeau, particulièrement au Philharmonique, qui m'a suivi tout du long de cette aventure. Vraiment.
Et puis, voilà qu'un disque paraît et que vous revenez des États-Unis où vous êtes parti vivre. C'était l'occasion jamais de vous avoir à France Musique pour raconter cette histoire du Requiem en le mêlant à bien d'autres musiques. Et c'est un parcours, j'allais le dire, de grande spiritualité ce soir, parce que votre Requiem vient à la source du sens du mot. C'est le repos à la fois dans la sérénité mais aussi dans le combat. Est-ce que je me trompe?
Oui, c'est un Requiem qui présente deux aspects. Ce n'est pas uniquement le repos, parce que c'est un Requiem qui correspond à un questionnement que j'ai eu depuis tout enfant, bien sûr, comme sans doute tout un chacun, de savoir si ça serait le repos ou si ça serait le néant éternel. Donc j'ai voulu mettre en évidence cette dualité. J'ai trouvé dans le texte du Requiem, qui est bien sûr utilisé par les compositeurs depuis 700 ans, cette phrase qui dit « Testez David comme Sibylla, tel que en témoignent David et la Sibylle ». Et il y avait là une opposition, David étant la figure chrétienne, si vous voulez, venant du judaïsme, et la Sibylle étant païenne. Donc il y avait déjà une antinomie ici. Et ils étaient rassemblés parce que tous les deux ont eu des visions de fin de monde. Par contre, j'ai trouvé que la Sibylle avait été damnée par Apollon et était condamnée à vieillir sans jamais atteindre la mort, alors que David implore pour la vie éternelle. Et ce sont ces deux oppositions, ce paradoxe que j'ai mis en valeur pendant tout le long de cette œuvre et qui m'a donné la dynamique de l'œuvre.
Et le Dies Irae que vous voulez nous faire entendre?
Alors le Dies Irae, c'est le point culminant. Je l'ai fait précéder par un extrait d'un psaume de David qui présente les personnages et qui amène le Dies Irae. Et le Dies Irae, vous allez voir, n'est pas de tout repos.
On l'écoute.
«
Le Dies Irae du Requiem de Thierry Lancineau, le chœur et l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Elia Winball. Et on entendait ici le ténor wagnérien, mais avec une voix tellement lumineuse, de Stuart Skelton, et Nicolas Courjal, la basse française. Un requiem, oui, pas de tout repos. Et puis c'est une colère presque guerrière, je trouve, Thierry Lancineau, ce début.
Oui, j'ai fait précéder ce Dies Irae par un extrait d'un psaume, le psaume 18, qui décrit l'aspect guerrier de David, hein, qui décrit les ennemis de David, que son Dieu va réduire en poussière et qu'il va pouvoir fouler aux pieds, etc. J'ai voulu décrire cet aspect guerrier, effectivement, et qui enchaîne sur le Dies Irae, sur cette colère du Dieu qui se retourne vers David.
Vous utilisez aussi le Dixit Dominus, par exemple.
Oui, alors il y a un autre petit extrait qui vient plus loin, dans un grand solo du ténor également, qui reprend le Dixit Dominus, sur lequel nous allons enchaîner maintenant, qui est le Dixit Dominus de Handel.
Et pourquoi Handel ?
Bien parce que, d'une part, vous avez cette connexion avec le Dixit Dominus, et c'est une œuvre aussi qui est extrêmement vivace, extrêmement astucieuse, et qui a surpris tout le monde. Et Handel avait 22 ans lorsqu'il a écrit ce Dixit Dominus. Il était à Rome. Je pense qu'il a été enflammé par la chaleur et le soleil romain, et il s'est vraiment débridé venant de son Allemagne. Et il a ouvert les voies à une expression très large. Et peut-être que ce que j'ai pu faire un peu aussi dans mon requiem, j'ai ouvert les portes à une expression très, très large.
Eh bien, on écoute le début du Dixit Dominus, le Dixit Dominus de Handel. Et c'est vrai qu'on sent une très grande énergie. C'est Emmanuel Haïm et le concert d'Astrée avec plusieurs chanteurs, Nathalie Dessay, Karine Dehé, Philippe Jarouski, Toby Spencer et Laurent Naouri.
Thank you.
Dixit Dominus Domino Meo, cede ad dextris meis, assieds-toi à ma droite, Yahvé étendra de Sion le sceptre de ta puissance, règne en maître au milieu de tes ennemis. Le Dixit Dominus de Handel, composé en 1707, vous le disiez Thierry Lancineau, à 22 ans. Et une belle énergie aussi dans cette interprétation que je trouve remarquable de Emmanuel Haïm à la tête du concert d'Astrée. On entendait Nathalie Dessay, Toby Spencer. Et dans ce requiem, il n'y a pas que des psaumes, Thierry Lancineau. Vous avez fait appel à un grand écrivain, pas n'importe lequel, Quignard. Ah qui oui. Donne justement à ce duo, cette rivalité entre la Sibylle et David, une force presque théâtrale. Comment ça s'est passé, votre rencontre, alors ?
Écoutez, je lui ai écrit parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup son œuvre. Et j'ai pu détecter quand même dans sa sensibilité quelqu'un qui serait tout à fait à même de porter un projet aussi lourd, aussi difficile à réaliser. Et donc je lui ai proposé, nous sommes rencontrés, il a écrit le texte, c'était aussi simple que ça.
Le sujet l'a intéressé immédiatement.
Le sujet l'a intéressé absolument immédiatement.
Oui, on parle de sujet théâtral pratiquement. Oui. Hein.
Il l'a intéressé parce que d'une part, ce paradoxe qui gisait dans ce texte depuis 7 siècles quand même, sans avoir été mis en valeur, et aussi cette idée qu'il a eue de garder l'équilibre entre l'éternité et le néant. Et ça, je me suis attaché en écrivant l'œuvre à conserver absolument cette balance et à respecter ce pacte que nous avions.
Il le précisait dans le programme, puisque j'avais noté cette phrase de Pascal Quignard. Je ne veux pas avoir à choisir entre la Sibylle et David. Je veux laisser face à face ces deux désirs. C'est exactement ce que vous venez de dire.
Oui, c'est une idée.
Il n'y a pas de, on ne fait pas le choix.
On ne trie pas dans les douleurs.
On ne trie pas dans les douleurs. Oui, c'est exactement cela. Et cette Sibylle, alors, vous avez une rencontre presque avec elle sur un lieu mythique.
La Sibylle, c'est la Sibylle de Cumes, n'est-ce pas ? Il y avait plusieurs Sibylles dans le bassin méditerranéen. La Sibylle de Cumes était particulière. C'est la Sibylle qu'on trouve dans beaucoup, dans Virgile notamment. Et elle est à Cumes, qui est une petite ville grecque et qui va donner Naples, qui va avoir la ville nouvelle, Napoli. Cumes est à quelques kilomètres de Naples. Et je suis allé à Naples et je suis allé à Cumes pour voir cette Sibylle avec mon fils qui avait une quinzaine d'années. Et nous sommes allés dans son antre un matin où il n'y avait absolument personne. Et dans cet antre où il fait très noir, il y a une belle jeune femme qui est sortie de l'ombre et qui était habillée en bleu, qui était magnifique. Et qui m'a demandé si j'avais du feu, elle avait une cigarette à la main. Et je n'en avais pas, mais j'ai pris des photos. Et en sortant, nous étions vraiment avec mon fils. Et nous avons vu un petit groupe d'enfants qui venaient. Et au milieu du groupe d'enfants, il y avait un aîné. C'était une animation scolaire. Mais nous nous sommes fait prendre.
C'est comme dans votre requiem, même dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière qui apparaît. Oui. On va entendre alors votre Sibylle, qui est la mezzo Nora Gubisch. Jadis hurlante, je dictais leurs livres aux anciens rois. Maintenant, gémissante, je pousse les roseaux, j'incline les cannes, je me fraye un chemin obscur parmi les joncs, je me dirige vers la barque crevée qui ne coule jamais, je suis tombé contre le flanc de bois de la barque infernale. Je m'adresse le chant de la Sibylle du Requiem de Thierry Lancineau, notre grande mezzo Nora Gubisch, le chœur et l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Eliaou Inbal. Vous racontiez Naples, Thierry Lancineau, Naples. Naples qui vous a inspiré déjà une autre œuvre.
Oui, Naples, c'était le point de destination d'une croisière en voilier que j'ai faite à cette époque-là, de plusieurs semaines, une très longue croisière. Et nous sommes arrivés à Naples, c'est là qu'a pris fin notre croisière. Et là, je suis allé voir le tombeau de Virgile, je suis un grand admirateur de Virgile, et j'ai trouvé le tombeau de Virgile, qui n'est pas facile à trouver. Et du tombeau de Virgile, il y a un souterrain qui nous amène à quelques centaines de mètres du côté d'où est la Sibylle. Mais je ne le savais pas à l'époque. Je me suis arrêté là, j'ai simplement vu ce tunnel, je me souviens très bien. Et ce n'est qu'un an après, lorsque le projet a pris forme et que j'ai vu l'ampleur de ce que pouvait apporter la Sibylle et ce paradoxe avec David, que j'ai décidé de retourner à Naples et à Cumes pour rencontrer cette Sibylle.
Et là, vous avez songé à une autre œuvre.
Alors oui, parce que c'était au moment des fêtes du Vendredi Saint, et il y a une église à Naples qui donne le Stabat Mater de Pergolèse tous les ans depuis sa création. Le Stabat Mater a été écrit en 1736 par un compositeur très jeune qui avait 26 ans, Pergolèse.
Et c'était l'une de ses dernières œuvres.
C'était sa dernière œuvre, il est mort très, très peu de temps après, et dans la même année. Thank you.
La mère de Jésus au pied de la croix, Stabat Mater de Pergolèse, Dorothea Rushman, soprano, David Daniels, contre-ténor et l'ensemble Europa Galante sous la direction de Fabio Biondi qui jouait aussi le violon solo. Ces voix qui s'enchevêtrent et qui sont là pour nous consoler, je reviens à votre requiem parce que l'émotion est là aussi dans ce Stabat Mater comme dans ce requiem, parce qu'il peut nous amener aussi bien au ciel, ou alors, comme vous l'écrivez dans le programme, dans ces contrées intérieures lointaines où les âmes prennent refuge, la polyphonie.
C'était un peu mon ambition de mettre en œuvre une polyphonie qui puisse toucher le fond de l'âme des hommes. C'est pas rien, quand même.
Et si on vous dit que c'est un peu proche, finalement, de cette polyphonie de Pergolèse.
Oui, le lacrymosa, c'est les larmes de la tristesse, hein, c'est pas loin du Stabat Mater. Hein,
mais c'est un lacrymosa qui console quand même.
Le lacrymosa est consolateur, je trouve. Oui, mais on voit cet enchevêtrement, non seulement des deux voix, mais il y a la troisième voix de Nora Gubisch qui reste la sibylle et qui vient contrarier les deux. Donc il y a trois voix qui s'ajoutent les unes aux autres.
Il est 19h44 et 26 secondes. Vous écoutez France Musique, les traverses du temps. Nous sommes en compagnie du compositeur Thierry Lancino, dont on entend des extraits de son Requiem. C'était le Lacrimosa, toujours avec Heidi Grant Murphy, Nicolas Courjal, Stuart Skelton, Nora Gubisch, les chœurs. Ces chœurs dirigés par Matthias Brauer et l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec Elia Winball. Et il y avait aussi ce solo magnifique du corps soliste du Philharmonique.
Juste après, le premier corps solo, juste après.
C'est une pure merveille.
Un corps aérien.
Oui. Vous vivez actuellement, Thierry Lancino, entre Paris et New York, mais surtout à New York. C'est un projet un peu franco-américain, ce Requiem.
Oui, c'était au départ un projet qui a été suscité par l'Orchestre Philharmonique, qui s'est engagé.
C'était d'abord une commande, oui.
C'était une commande de Radio France qui cherchait des partenaires. Et la Fondation Koussevitzky américaine s'est liée à Radio France et également le ministère de la Culture.
Oh, Koussevitzky, c'est quand même pas mal parce qu'ils ont donné quoi? Vous étiez à côté de. Vous savez, aux voisins de Messiaen, de qui encore de Dutilleux, non? De Poulenc aussi.
Oui, ça c'est pour les Français, mais il y a eu des œuvres fantastiques, oui. De Bartok, Stravinsky, etc. Bon, mais bon, il y en a eu beaucoup d'autres aussi.
D'ailleurs, dans le magazine américain très très prestigieux aux États-Unis qui s'appelle Listen, qui correspond un peu au gramophone anglais, j'ai vu que votre enregistrement du Requiem était dans les 10 disques à écouter d'urgence. Le mois de parution de Listen, c'était ce mois-ci, non?
Oui, c'était l'hiver. C'était ça paraît tous les trois mois.
Tous les trois mois.
Pour l'hiver.
Et vous avez un autre projet maintenant. Après ce Requiem, vous passez à la musique de chambre. On a parlé du Stabat Mater que vous concoctez aussi, mais vous voulez passer à la musique de chambre.
Oui, alors là, ça fait partie des paliers. Vous savez, quand on remonte d'une plongée en apnée profonde, il faut respecter des paliers. Et un des paliers, c'est la musique de chambre pour remonter à la surface un petit peu.
Et c'est quoi, un quintet?
Alors, c'est un quatuor à cordes, un quatuor à cordes. Et c'est pas une chose très facile. C'est un quatuor américain. Et qui est une commande du Festival de musique de chambre de Santa Fe dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis. Et c'est le quatuor Orion.
Et vous avez voulu entendre du Britten. Après tout, Britten a composé ce fameux quatuor dont on va entendre Vivace, après un opéra aussi.
Et oui, Britten a écrit Peter Grimes, et qui était une commande de la Fondation Koussevitzky.
Ah ben vous voyez, tout se rejoint. On va écouter alors le Vivace de ce quatuor de Britten avec un enregistrement que nous trouvons tous les deux formidable du Aurin Quartet. C'était un des premiers enregistrements en 1991. Thank you. Le Vivace du Quatuor numéro 2, opus 36 de Benjamin Britten, écrit donc en 1945, c'était le Quatuor allemand Aurin, enregistré ici en 1991 avec une belle énergie aussi.
Ah oui, ça,
et
ça
c'est un des enregistrements, je trouve, les plus beaux de ce Quatuor numéro 2 de Benjamin Britten. Et à propos d'enregistrement, justement, le Requiem, votre Requiem a été enregistré par Radio France.
Oui, le Requiem était enregistré pendant les répétitions et pendant
le concert.
Pendant le concert. Et c'est cet enregistrement qui a été utilisé par les ingénieurs de Radio France. Cet enregistrement était en multipiste, en 48 pistes numériques.
Et C'était la première fois.
Définition. Et on a fait un mixage. Alain Duchemin et Cyril Bécou, qui ont fait la prise de son et le mixage, ont fait un mixage en 5.1 surround. C'est-à-dire, surround, c'est comme les systèmes, vous savez, dans les cinémas où on entend du son.
Ah, de surround.
Voilà. Et on entend le son un peu qui vous engloutit. Et ça donne une définition fantastique où on se croit vraiment dans un espace.
Dans la salle de concert.
On croit dans une salle de concert, oui, magnifique.
Et pour se quitter, vous avez voulu qu'on écoute l'Ingemisco et le Confutatis.
Oui, alors dans ce Requiem, la soprano n'arrive qu'au bout d'un certain temps assez long pour chanter l'Ingemisco, qui vient tout de suite après le Rex Tremendi, qui est terrifiant. C'est l'apparition d'un dieu en gloire ou qui impose, où tous les chœurs chantent très fort. Et tout d'un coup, on entend une voix, un frémissement vocal, une voix. C'est la soprano qui dit « je gémis » et c'est moi, c'est l'humain. En fait, c'est dans sa souffrance, c'est l'humain qui demande à son dieu de prendre soin de sa faim.
C'est ce que j'ai trouvé aussi très, j'allais dire, théâtral chez vous, ces ruptures entre la violence et tout d'un coup, cette espèce de méditation calme et cette voix de Heidi Grant Murphy avec ses pianissimi extraordinaires qui flottaient sur un tapis de violoncelle, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça, c'était totalement maîtrisé et vous verrez justement un exemple de rupture dans ce qu'on va écouter puisque le Ingemisco est interrompu par le Confutatis.
Eh bien, on va l'écouter. On écoute donc l'Ingemisco et ce Confutatis qui au contraire, un déferlement. Toujours donc l'Orchestre Philharmonique Les Chœurs de Radio France, Elia Winball, le Requiem de Thierry Lancineau.
Thank you.
In gemisco, con futatis du Requiem de Thierry Lancino, le chœur et l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction d'Eliaou Inbal, les solistes Heidi Grant Murphy, Nicolas Courjal, Stuart Skelton, Nora Gubisch, une œuvre qui vraiment transcende toutes les écoles. Thierry Lancino, et pourtant vous avez passé 7 ans à l'IRCAM avec Pierre Boulez.
Ah, j'ai été très heureux à l'IRCAM. Je me suis beaucoup occupé de la synthèse du son, des sons.
Merci d'avoir été avec nous. Pour réaliser cette émission, José Bernays, Alice Cachaner, Victor Buton, Souad Boukorsa, Ludovic.